Père, l'Éternel des armées, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je bénis encore ton saint nom ce matin. Je te loue, je te glorifie, Seigneur Père. J'exalte ton saint nom parce que tu es le seul vrai Dieu et en dehors de toi, il n'en a point d'autre. Père, je remets encore ce partage en tes mains et je prie, je te demande de me diriger par ton Esprit Saint afin que, Père, je ne sème pas la confusion, mais plutôt la lumière, cette lumière qui vient de toi, ô Père. Élève de nouveau ton Fils et qu'il soit au centre de ce partage dans le nom de Yeshua. Amen. Donc aujourd'hui, je partage, comme je l'avais dit dans mon premier audio, mis à tard, premier audio généralité et deuxième audio, mis à tard Yeshua, le Fils de l'Éternel Dieu. Voilà, le Fils de l'Éternel Dieu. Je le dis que nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas tout saisir. La Bible ou bien l'Éternel Dieu, Elohim, Yod, He, Vav, He, ne nous demande pas ça. Ce qu'il nous demande, c'est de connaître son Fils et de mettre notre confiance en lui pour être sauvés. Le reste, il nous le révélera progressivement. Et nous aurons toute la plénitude de la révélation, nous aurons l'éternité pour comprendre tout ce que nous n'avons pas compris ici. Donc, mon objectif ici, c'est de donner, donc de partager avec vous ce que je sais, ce que je connais, ma foi véritable que j'ai dans le Messie Yeshua. D'accord? Voilà. Donc, nous entamons donc la deuxième partie. Donc, Mi'ata 2, que dit Yeshua de lui-même? Que dit Yeshua de lui-même? Voilà. Donc, nous allons prendre les propres paroles de Yeshua que nous allons examiner, que je vais soumettre à votre sagacité intellectuelle et spirituelle, parce que le but de l'évangile, le but des ministères dans la Bible, c'est que nous arrivons à une même foi, à l'unité de la foi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Éphésiens 4, à l'unité de la foi. L'objectif de l'Éternel Dieu, c'est ça, c'est que ses enfants arrivent à l'unité. Sinon, nous ne pouvons pas être un. L'un va dire ceci, l'autre va dire cela. Et si les gens sont très charnels, donc c'est les querelles après qui vont avoir lieu. D'accord? Donc, alors que Yeshua lui-même a prié pour notre unité. Ouais, il a prié pour notre unité. Il a prié pour que nous soyons un, comme lui et le Père, ils sont un. Voilà. D'abord, nous allons voir la notion de fils. Et fils ne veut pas dire enfant, ne veut pas dire enfanté. Lorsqu'on dit que Dieu, le Père, Elohim, a un fils, ou bien lorsque Yeshua dit qu'il est le fils d'Elohim, il ne le dit pas de lui-même. Mais il le dit parce que le Père l'a déclaré ainsi. D'accord? Fils engendré. C'est pourquoi on parle de nom engendré et nom enfanté. En hébreu, il y a une différence. Quand on dit enfanté, vient de yalad, le verbe yalad. Et enfant veut dire yeled. Yeladim, les enfants. D'accord? Mais pour le Seigneur Yeshua, on a employé ben. Ben, fils. Fils. Dieu ne peut pas enfanter. Dieu n'est pas un homme pour enfanter. Et Yeshua dit lui-même qu'il était dans le sein du Père. Et nous avons vu hier que Yeshua est la parole de l'Éternel. Vous savez, l'Éternel Dieu n'a pas changé. Et je disais tout à l'heure, que je disais hier que la vérité doit être cohérente avec elle-même. La Bible nous dit au commencement, cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Puisque Dieu est parole, l'Éternel Dieu, Elohim est parole. Donc cette parole, il a fait sortir cette parole-là. On nous dit que c'est pas cette parole qu'il a créé toutes choses. Et la Bible nous confirme dans Colossiens 1, le verset 16, que c'est cette parole qui a tout créé. Et tout a été créé en lui, dans le Fils. Cette parole est devenue chair. C'est concrétisé, a pris forme, une forme humaine dans ce monde. Et c'est ce que Yeshua dit de lui-même. D'abord, nous allons lire ce que l'Éternel Dieu a déclaré par son serviteur David dans le psaume 2. Dans le psaume 2, tu es mon fils. Ben, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils. Et c'est l'Éternel Dieu qui l'a décrété. Mais c'est lui qui l'a décrété. Il a pris un décret pour décréter que Yeshua est son fils. C'est lui qui l'a dit. Il a décrété. Il a décrété. Donc, si nous pouvons lire dans le psaume 2, ouais, le temps me manque pour lire tous les versets. Il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà, c'est lui qui le dit. Donc, c'est lui qui l'a décrété. Et cette parole est aussi conforme à ce que nous dit le chapitre 1 du livre des Hébreux. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières partagé à nos pères par les prophètes à Elohim, dans ces derniers temps nous a partagé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi fait les siècles. Les siècles là-bas, c'est Olam. On peut se traduire aussi par le monde. Lui qui étant le reflet de sa gloire, l'expression exacte de sa personne. Vous voyez, les mots sont forts. L'expression exacte de sa personne. Et c'est lui, cette parole qui s'est faite chair, qui soutient toute chose dans la création, soutenant toute chose par la parole révélée de sa puissance, a fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voyez, les anges ont été créés, ils ont une existence en dehors de Dieu, comme nous aussi. Alors que le Fils, non, il n'a pas d'existence en dehors de Dieu. Son existence est dans le Père. Et c'est ce que lui-même a dit. Il a dit dans... Il a dit qu'il est venu du Père. D'abord, il a dit, quand Jean parlait, Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Voilà, dans le sein du Père, il est unique. Il est unique parce que il est unique. Personne n'est comme lui, puisqu'il procède du Père directement. Et la Bible nous dit dans Jean 1, le verset 14, qu'il a une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Yeshua lui-même l'a dit. Vous voyez? Et dans Hébreux 5, le verset 5, et le Messie ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il le tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, engendré Genao, fils Huios. Hein? C'est l'équivalent de Ben en hébreu, d'accord? Il dit qu'il est le fils, l'équivalent en hébreu. D'accord? Alors, aujourd'hui, cette notion pose problème à certaines personnes qui disent, ah oui, Dieu ne peut pas, surtout les musulmans. Voilà, donc je vais un peu m'attarder ici pour expliquer, parce que je fais quelque chose pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Hein? Pour tout le monde. Et dans Jean 8, le verset 42, Yeshua lui-même va dire, Yeshua leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est d'Élohim que je suis sorti et que je viens. Voyez, la parole de Dieu est venue, elle est sortie. Cette parole est sortie d'Élohim. Cette parole s'est faite chair. C'est du Père que c'est sorti. Vous allez voir que on va le lire. Tout à l'heure que quand Yeshua parle de son père, il utilise le mot Eloah, qui est le singulier d'Élohim. C'est vraiment évident. Des fois, il emploie Eloah, il n'emploie pas Elohim. Il emploie Eloah pour dire Dieu, pour parler de son, parce qu'il est sorti de lui. Il est 1 Jean 5, le verset 1. Quiconque croit que Yeshua est le Messie est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donc, Yeshua vient de lui. D'accord? Et c'est la parole que l'ange Gabriel a donnée donc à Marie dans Luc 1, le verset 31. La Bible, que nous n'allons pas lire, la Bible nous dit que l'ange Gabriel donc était parti donc chez Marie et qu'il a dit à Marie. Il a dit à Marie, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Élohim dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Il parle de l'Éternel. Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier cela. Bon, je passe, voilà, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Elohim lui donnera le trône de David, son père, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'ange répondit, le Saint-Esprit, la Ruah HaKodesh viendra sur toi et la puissance de te couvrir. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et Yeshua lui-même a dit, il est dans le Père et le Père est en lui. C'est ça, le Père est en lui par l'Esprit Saint qu'il a reçu, sans mesure. C'est ça, parce que le Père est illimité. Alors que nous, par exemple, nous avons reçu l'Esprit avec mesure, parce que nous ne procédons pas directement du Père. Nous avons été créés. Et nous avons été adoptés. Nous sommes les enfants de. Nous avons été adoptés. Parce que nous avons une naissance. Nous avons un commencement. Un enfant, toujours un commencement. Nous sommes les enfants de Dieu. Vous voyez, nous aurons un commencement. Vous voyez, nous sommes alors que le Fils n'est pas un enfant. Vous voyez, le Fils n'est pas un enfant. Il n'a pas de commencement, mes frères et sœurs. C'est ce que nous devons voir. Je reviens sur la notion de. Or, les musulmans, par exemple, je viens, voilà, vous allez voir. Les musulmans disent que Elohim n'a pas de fils. Alors que les musulmans eux-mêmes disent dans le Coran, ils disent que dans la sourate 4, le verset 82, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, il n'y trouverait cette maître contradiction. Vous voyez, parce qu'ils disent que si la parole ne provient pas de Dieu, si une parole, une révélation ne provient pas de Dieu, il y a toujours des contradictions. Nous allons voir que, vous voyez, qu'il y a des contradictions dans le Coran lui-même. Je vous ai parlé qu'ils ont dit fils, que Yeshua est le fils de Marie, Myriam, sœur d'Aaron. Oh, il y a 10 siècles qui les séparent. D'accord? Voilà. Deuxième chose également, le Coran dit à son prophète que, dites, sourate 2, le verset 136, dites, nous croyons en Dieu en ce qui, à ce, et en ce qu'on nous a révélé. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils croient dans la parole qui a été donnée à Moïse depuis Genèse jusqu'à la Torah, toutes les Écritures. En ce qui a été donné donc, à Moïse, donc, et à Yeshua, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de Dieu, du Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Vous voyez, le Coran dit lui-même que la parole révélée avant lui, 600 ans avant, est la vérité qu'ils doivent croire. Mais néanmoins, vous allez voir qu'il y a une contradiction. Et dans Sourate 10, le verset 94, il dit encore, « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire les Écritures, la Torah et les Évangiles. » Là, l'Évangile. D'accord? Voilà. Et là, l'Évangile. « Et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges les versets de Dieu. Tu seras alors du nombre des perdants. » Vous voyez? Après, les musulmans vont dire que l'Évangile a été falsifié. Sourate 2, le verset 97, dit « Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. » Donc, le Coran dit lui-même que « et qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce, c'est-à-dire la bonne nouvelle, on parle de l'Évangile. » Donc, Gabriel dit lui-même que, non, le prophète de l'islam dit lui-même que c'est Gabriel qui lui a fait descendre cette parole, qui lui a révélé les choses. Hein? Or, ce même Gabriel, 600 ans plus tard, va venir, parce que le Coran, dans Sourate 9, le verset 30, condamne les juifs et les chrétiens qui disent que Elohim a un fils. Hein, Elohim a un fils parce qu'il dit que c'est comparable à des mécréants. Lisons. Les juifs disent Uzar est fils de Dieu. Les chrétiens disent le Messie est fils de Dieu. Abnou Alaï. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Il imite les dires des mécréants avant eux. Donc ici, le Coran condamne toute filiation, toute forme de filiation, que ce soit physique, spirituelle ou métaphorique. D'accord? Il condamne tout, il renie tout cela. Et il déclare que Dieu doit les anéantir parce qu'il s'écarte de la vérité. Or, ce même Gabriel donc va venir donc quelques 600 ans plus tard dans Luc 1, hein, 600 ans plus tard dans Luc 1 que nous allons lire, nous avons lu ça tout à l'heure, dans Luc 1, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Élohim dans une ville de Galilée appelée 600 ans avant, hein, Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. Voilà, le nom de la Vierge. Et que dit l'ange Gabriel? Gavurat, qui dit la puissance de Dieu. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. D'accord? C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Parce que cet enfant sera rempli, viendra grâce au Saint-Esprit. Voilà, au Saint-Esprit. D'accord? Voilà. Donc, on voit que cet ange Gabriel se contredit. Il a dit quelque chose 600 ans avant, 600 ans après, il se contredit. Alors, le Coran dit qu'il ne peut pas avoir de contradiction dans la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il n'y a que le Coran qui se trompe. Qui se trompe, qui se contredit. Et dans Galates 1, le verset 18, on nous dit, mais quand un ange du ciel annoncera un autre évangile, de ne pas le croire. Vous comprenez ce que je dis? Donc, nos amis, les musulmans, doivent revenir à la vérité de la parole de Dieu parce que l'Éternel Dieu ne change pas. Il a dit dans Malachie 3, le verset 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ou bien Jacques 1, le verset 7, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quiconque, ni le Fils, ni le Père aussi en même temps, mes frères et sœurs, c'est comme ça. Il ne peut pas avoir de doute parce que le Fils est venu. C'est ce que Yeshua lui-même, qu'il est venu. C'est la parole qui est venue. Il procède du Père. Il était au sein. Il est venu. Cette parole est sortie. pour se matérialiser. Et cette parole est le Messie, Yeshua, qui nous sauve. Il a été engendré. Hein? Quiconque ne l'aime pas n'est pas né de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Donc, les frères et sœurs, nous avons tout est ici, quoi. Tout est clair pour celui qui veut s'attarder, pour comprendre, pour réfléchir sur les choses. Vous voyez, Yeshua ne s'est pas attribué cette gloire-là, mais c'est le Père qui lui a donné, qui lui a dit de venir, qui a décrété que voilà, tu vas y aller, ainsi de suite, tu seras le Fils. Il a décrété, il n'est pas venu de lui-même, mais de celui qui m'a envoyé. Il a dit que c'est de Dieu qu'il était sorti et il est venu dans ce monde. Donc, ok, nous avons réglé ce problème donc, de fils, la notion de fils et la notion. Nous, nous sommes des enfants de Dieu parce que nous avons été adoptés, nous sommes nés de nouveau. Donc, nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Et le Messie, lorsqu'il est allé sur la croix, il est devenu le premier-né. Mais oui, il est allé sur la croix, il est devenu le premier-né. Le premier-né, comme Adam était le premier-né de la création. Il est le premier-né de la nouvelle création et nous étions tous en lui. C'est ce que la Bible nous dit, nous étions en lui et nous sommes nés en lui. C'est comme ça. C'est le début, le commencement de la nouvelle race. Ou bien, on peut le dire comme ça, de la nouvelle race, hein, qui sont la race des enfants de Dieu. Lorsque nous serons dans l'éternité, nous aurons donc la vie de Dieu et nous pouvons être appelés fils. Comme les anges aussi sont appelés fils, les fils de Dieu. Mais nous ne serons pas un fils unique, mes frères et sœurs. Donc, je vais continuer donc après cette brève introduction, en tout cas mise au point. Maintenant, nous allons voir ce que Yeshua dit de lui-même. Ainsi, nous allons lire donc la parole de Dieu, ou bien ce que Yeshua dit de lui-même et ce que donc les écrits du Nouveau Testament, comme on les appelle, dit. Voilà. D'abord, dans Jean. On va lire beaucoup Jean aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est le livre de toutes les révélations, de tous les commencements. Or, je disais dans Jean 1, le verset 18, on nous dit que personne n'a jamais vu Ha Elohim. Ha Elohim, c'est le Dieu. Ce Dieu-là, ce Dieu qui est différent des autres dieux, des autres Elohim. Le Dieu d'Abraham, d'Isaïe et de Jacob. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, je disais donc hier que ce verset est capital. Ça va être notre guide le long que personne n'a jamais vu Dieu. Ni Abraham, ni Moïse, ni personne d'autre. Parce que l'Éternel, le Père, l'être qu'on appelle le Père est invisible. La Bible nous dit qu'il habite une lumière inaccessible, qu'aucun œil n'a vu et ne peut voir. C'est au présent, ce verset-là. C'est dans 1 Timothée 6, le verset 16, c'est au présent. Hein? D'accord? Donc, lisons maintenant dans Jean 5. Jean 5, donc le verset 3, 7, 39 et 46. Jean 5, je lis toujours dans la version messianique. Jean 5, le verset 3. Oh non, qu'est-ce que je fais là? C'est vrai ça? Non, c'est le verset 37 plutôt. Ouais, voilà, excusez-moi. J'écris tellement mal, hein. Pardonnez-moi, hein, mais mon écriture a été déformée par mon travail. J'ai une écriture professionnelle, même quand j'écris maintenant, excusez-moi. Des fois même, j'ai du mal à me lire. Mais bon, Jean 5, le verset 35. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » Voyez. Donc, Yeshua ne s'est pas attribué quoi que ce soit. Et même de Même dans le verset 36, moi j'ai un témoignage plus grand de celui de Yohanan. C'est Yohanan qui a dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais que le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Mais Yeshua a dit qu'il a un témoignage encore plus grand que celui qu'a donné donc Yohanan. C'est Amatbil, c'est-à-dire Jean le baptiseur. Et que c'est le Père qui lui a donné d'accomplir ses œuvres même que je fais, témoignant de moi que c'est le Père qui m'a. Parce que personne, même Nicodème l'a reconnu, que personne ne peut faire les miracles que Yeshua faisait. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi, et vous n'avez jamais entendu sa voix, et vous n'avez point vu sa face. Vraiment, ce sont des paroles révolutionnaires. Vous voyez, ça a bouleversé et toute la certitude des scribes, des pharisiens et autres courants du judaïsme de l'époque de Yeshua. Et c'est ce qu'il leur a dit. Et voilà, comment je dois prendre, comment on doit commenter ces versets-là. Le Père l'a envoyé, a rendu lui-même ce témoin. En effet, lorsque le peuple était sorti du désert, on l'a lu hier, arrivé un moment, le peuple était tellement rebelle et faisait des choses que le Père Elohim a dit, non, 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 si je continue, je vais vous détruire. Je vous envoie mon ange, l'ange de l'Éternel, mon nom est en lui, il est le mandataire. Vous savez, la tribu de miséricorde se trouve avec Yeshua. C'est ça, c'est ce que moi je pense, la tribu de miséricorde, de grâce. C'est ce que la Bible nous dit, que la grâce et la vérité, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Yeshua. La grâce, ou Dieu, la justice de Dieu ne s'applique plus avec rigueur. La rigueur de Dieu ne s'applique plus, mais c'est sa grâce. Il donne un temps aux pécheurs de se repentir. Et en même temps, la vérité, parce que Yeshua explique, donne la vraie version de la Torah, donne la vraie version de la parole de Dieu. Nous devons comprendre cela. La parole qui a été donnée depuis le premier livre, depuis Genèse, Yeshua dit que lui, il donne la vraie version. La vraie interprétation. C'est pourquoi on dit grâce et vérité. Grâce et vérité. Il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Alors, quelle voix les Israélites ont entendu? Que vous n'avez jamais. Oui, les pharisiens n'ont jamais entendu. Ou bien tous les scribes n'ont jamais entendu la voix de l'Éternel Dieu. Même sur la montagne de Sinaï, Paul, l'apôtre, nous révèle que ce n'est pas des anges. Il y a l'ange de Dieu par excellence, c'est Yeshua, puisqu'il est l'ange de l'Éternel. Et j'avais expliqué hier que, comme dans Exode 24, le verset 10 et 11, on nous dit que les anciens d'Israël ont vu une représentant le pied de la divinité d'Israël, que ça ne pouvait être que le Messie, parce qu'il y a une permutation en permanence entre l'ange de l'Éternel et l'Éternel et le Père lui-même. D'accord? Voilà, parce que le Fils est l'image, est l'expression de la personne d'Élohim. Voilà, elle est l'expression exacte. Parce que l'Éternel Dieu habite une lumière inaccessible qu'on ne peut pas voir. C'est pourquoi il leur dit ça. Donc c'est moi qui vous ai parlé. C'est pourquoi il a dit, parce qu'il est la parole. C'est moi que vous avez entendu. Puisque personne ne va au Père que par lui. Même les sacrifices qu'on faisait, c'était un substitut du Messie. Et vous n'avez pas vu sa face. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est ce qu'il dit encore ici. Voilà. D'accord? Allons-y. C'est vraiment. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il est vrai. Ce sont elles qui rendent témoin. C'est la parole de Dieu. C'est les Écritures. Vous voyez que Yeshua dit les Écritures. C'est comme ça qu'on dénommait donc les écrits de la Torah, des psaumes et des prophètes avant, les Écritures, parce que vous pensez avoir la vie éternellement. Non, ce sont elles qui rendent témoignage. Donc, comme je l'avais dit que la vérité doit être cohérente avec elle-même, nous devons trouver trace de ce que Yeshua dit de lui-même dans les écrits d'avant. Nous y reviendrons dans un troisième et dernier audio. Voilà, sondez les Écritures. Alors, et il a été vraiment sévère envers, et dit le verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Voilà, il parle de l'anti-messie qui va venir, ils vont le recevoir. L'homme est comme ça. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Ha Elohim ?» Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moshe, en qui vous avez mis votre espérance. Ben oui, Moshe a dit quoi? A dit que l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le, il a dit. Il a dit, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi, écoutez-le. Que le prophète sera juif et non togolais ou russe ou ukrainien ou français. Hein? Comme vous, comme moi. Il a dit, comme. Ou bien parmi vos frères, c'est ce qu'il a dit. C'est Moïse qui l'a dit, hein, si vous voulez, Moshe qui l'a dit, hein, qui va susciter comme lui. Voilà, Deutéronome 18, le verset 15. Deutéronome 18, le verset 15, il a dit ça. L'Éternel, ton Dieu, ton Elohim, te suscitera du milieu de toi. D'entre tes frères, donc le Messie ne peut pas être autre, ne peut pas être non-juif, non-hébreu, de la tribu de Judas, d'où le thème juif, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, ton Elohim, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel. Vous voyez, les Israélites avaient peur. Donc, l'Éternel Dieu a donné un médiateur, un mandataire, un intermédiaire. Là, c'est ce que nous confirme aussi la parole de le Nouveau Testament, que Yeshua est le seul intermédiaire, le seul médiateur entre Elohim, Ha Elohim et l'humanité. Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Mes paroles dans un prophète, il a dit, pas plusieurs. Un prophète, c'est-à-dire un type particulier de prophète. Comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira, tout ce que je lui commanderai, c'est ce que Yeshua dit lui-même, qu'il ne fait rien sans l'ordre exprès du Père, sans avoir l'autorité, sans avoir le go du Père. Et il ne fait rien en dehors du Père, il ne fait rien en dehors de la volonté du Père. Ils sont un. C'est ce qu'il dit ici, que c'est le Père qui lui rend témoignage, c'est Moïse qui a écrit de lui. Car si vous croyez Moshe, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Là, nous verrons ça dans un troisième audio. Donc, voilà, parce que Moshe a écrit de lui, il a dit. Moshe a écrit de lui, effectivement, nous venons de le lire. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles révélées? Oh là là, vraiment, ils étaient furieux. Firas. Donc, nous continuons. Donc, nous voyons que Yeshua, il connaît d'où il vient, il connaît où il va, il sait qui il est et il le dit, mais les gens ne le croient pas. Et aujourd'hui encore, les gens ne croient pas. Il y a tous les avis sur Yeshua aujourd'hui. Les gens ont écrit des livres, les gens ont dit des choses, les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est ce que Yeshua a dit, que nous, les gens en dehors adorent ce qu'ils ne connaissent pas et que les Juifs, eux, ils connaissent ce qu'ils adorent. Nous aussi, nous connaissons ce que nous adorons, celui que nous adorons plutôt. Hein? Donc, Yeshua dit qu'il vient du Père et qu'il ne tire pas sa gloire de lui-même, que c'est le Père qui lui donne cela, qui a mis son sceau sur lui, et il vient de lui, il est sorti de lui pour témoigner de la vérité et de la grâce, et que Moshe a écrit de lui, et effectivement nous venons de lire Moshe dans Deutéronome. Nous venons de lire 18, le verset 15, le verset jusqu'à verset 18. Voilà. Et le verset dit, « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Et c'est ce que Yeshua a dit à ses contemporains, que ce n'est pas lui qui va les juger, mais c'est Moshe, les écrits de Moshe qui va les juger. C'est pourquoi il dit, « celui qui ne croit pas en lui, mais est également contre Dieu. » Voilà. Celui qui ne croit pas en lui est contre Dieu. Celui qui n'accepte ses paroles ne peut pas être dit qu'il est né de Dieu. C'est ce que 1 Jean nous dit également, hein, que celui qui ne croit pas dans ce que Yeshua dit n'est pas né de Dieu. Jean 6, donc, lisons dans le verset 45 et 46, Jean 6. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés d'Élohim. Ainsi, quiconque a attendu le Père, reçu son enseignement, vient à moi. Voilà. Si nous croyons donc à la vérité des Écritures, c'est-à-dire de la Torah et de tout ce qui des prophètes, donc nous recevons également l'enseignement de Yeshua. C'est comme ça. C'est pourquoi cela, parmi les soi-disant chrétiens qui rejettent les Écritures en les traitant d'écritures juives, ben, ces gens-là sont en danger parce qu'ils rejettent la vérité de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu, l'Éternel, Dieu Elohim, a fait avant est vrai. Mes frères et sœurs, est vrai. Je disais à quelqu'un la dernière fois que j'ai été un peu sévère, hein, que la personne m'excuse, j'ai dit que son raisonnement est sous-tendu par un antisémitisme que l'Église officielle a véhiculé et véhicule jusqu'à aujourd'hui. C'est que nul n'a vu le Père, mes frères, nul n'a vu le Père, nul, ni Abraham. Alors, qu'est-ce que Abraham a vu dans Genèse 18, alors, avec qui il a parlé? Voilà, c'est quelque chose de troublant, mes frères et sœurs, mais ce n'est pas si troublant que ça. C'est que nul n'a vu le Père, parce que nous l'avons établi, nous l'avons démontré par les Écritures. La vérité est établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Moshe l'a dit, en disant, vous n'avez pas vu de forme, vous n'avez pas vu, vous avez entendu que des voix. Et Paul nous dit, l'apôtre nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible, qu'aucun œil n'a vu ni ne peut voir. Et nous avons également vu dans 1 Jean 4:12, que Dieu est invisible. Dieu est invisible. Voilà. Donc, Yeshua confirme cela. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Elohim. Celui-là même a vu le Père. C'est ça. A vu le Père. A vu le Père. C'est lui seul qui connaît le Père. C'est lui seul qui l'a vu. C'est lui seul qui sait comment il est. Nous ne savons pas. Peut-être que durant même toute l'éternité, nous ne verrons aucune forme du Père. Mais nous avons Yeshua, qui est le représentant du Père,
qui est l'image de sa personne, lui, il a pris une forme humaine, il s'est restreint, il s'est dépouillé de sa gloire et il est venu dans ce monde pour nous racheter de la vaine manière de vivre. Si toi, mon frère, si toi, païen, en tout cas, je n'aime pas ce mot, toi qui ne crois pas, toi qui as endurci ton cœur, tu entends cette parole, c'est aujourd'hui le jour de ton salut. La Bible nous dit que la parole est dans ta bouche et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Romains 10, le verset 10, la parole est dans ta bouche. Et que dit cette parole? Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, si tu crois dans ton cœur que Dieu, que Elohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà, c'est dit. Alors, la balle est dans ton camp. Et si toi qui étais chrétien, en tout cas croyant, tu as rétrogradé, viens, parce que la Bible nous dit de venir, de revenir à la croix de Golgotha. La repentance est ici et maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après ta mort. Quel que soit ce que les gens diront après ta mort, quelles que soient les tonnes de culte ou de messe que les gens feront sur toi, ça ne changera pas ta destinée. Donc aujourd'hui, c'est le jour de salut si tu entends ces paroles-là. S'il n'y a jamais de hasard avec l'Éternel, avec Elohim, mes frères et sœurs. Continuons donc la lecture. Nous allons lire maintenant Jean 8. Ah là là, ça c'est un chapitre époustouflant. Époustouflant, mes frères et sœurs, c'est vraiment époustouflant. Je ne sais pas vous, mais faisons, on dit, celui qui réfléchit sur les choses est heureux. Heureux de découvrir des vérités, heureux d'avoir des révélations, heureux d'avancer dans la connaissance, donc, de Yeshua le Messie. Mes frères et sœurs, Jean 8, le verset 56 à 59. Mais on peut lire tout, hein, mais vraiment, moi, comme à cause du temps. Donc, c'est lors d'une discussion avec donc, les Yehoudim, qu'on a traduit par les Juifs, les Yehoudim. En tout cas, une catégorie surtout, c'est les pharisiens et les sadducéens. Je vais lire du verset 53. « Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Que prétends-tu être? » Oui, parce que Yeshua leur a dit « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Parce qu'en disant cela, mais il se dit « Mais il est Dieu lui-même, alors que c'est un homme qui est devant nous. Son père était là, il est charpentier, machin, tout ça. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort, les prophètes? Yeshua répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » Et effectivement, qu'un autre te loue et non ta propre bouche. C'est ça, ça confie cette parole. « C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Elohim. » Voilà ce que je disais tout à l'heure, que Yeshua a utilisé le singulier parce qu'il parle du Père. Il ne dit pas Elohim. Elohim, ça veut dire plusieurs. Ça veut dire au moins plus de deux. Elohim, selon ce qu'a dit un frère, bon, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, Elohim, c'est le singulier d'Elohim. Hein? D'accord? Elohim. Lui que vous dites est votre Elohim. Et que vous ne connaissez pas, ça il a répété, vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas. Hein? Beaucoup de gens parlent, les théologiens parlent de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Je profite de l'occasion pour dire, on ne peut pas étudier Elohim. On ne peut pas étudier. On peut étudier les Écritures, mais on ne peut pas étudier. Théologie veut dire étude de Dieu. Voilà, on ne peut pas étudier Dieu, on ne peut pas étudier Elohim. C'est trop pour nous, c'est une prétention vraiment de toutes ces personnes qui sont bardées de diplômes et qui viennent dire « Ok, nous connaissons ». Non, si l'Éternel Dieu, l'Esprit Saint ne te révèle pas les choses, tu ne peux pas connaître, mon frère, ma sœur. Et c'est pourquoi Yeshua leur dit, malgré vos études, malgré votre théologie, malgré tout, vous ne le connaissez pas. Pour moi, je le connais. Lui-même l'a dit, puisqu'il dit qu'il procède du Père. Il vient de lui, il est sorti de lui. Il le connaît. Si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous. Voilà, je serais un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Donc, plus nous aurons la connaissance de Dieu, d'Élohim, de l'Éternel Dieu, plus nous garderons sa parole, plus nous aurons cette crainte sainte de lui et nous garderons sa parole. Je rappelle que Yeshua lui-même a dit, la vie éternelle c'est quoi? C'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé pour Messie, Yeshua. C'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. Plus nous grandirons dans la connaissance, plus notre crainte grandira. Moi, je le connais, je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Moi, en tout cas, Abraham, normalement, n'a pas vu le jour de Yeshua. Il a vu Yeshua. Non, je pense que... Je ne sais pas, hein. Bon, peut-être qu'ici, il fallait traduire « Votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, ou bien de ce qu'il me verrait. Il m'a vu et il s'est réjoui. » D'accord? Ici, Yeshua, nous verrons ça aussi demain, fait allusion à Genèse 18. Je lis à Genèse 18. Et... les mots utilisés, hein, ce sont des mots en hébreu, Genèse 18, c'est vu, voir. C'est voir, hein, c'est voir, c'est pas une vision, c'est ra'a. Ça veut dire voir, voir avec les yeux. L'Éternel se révéla à lui dans les plaines de marée, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur de jour. Comme il levait les yeux, regardait, il vit trois personnages debout près de lui. Et vous allez voir, en les voyant, il courut à eux du seuil de sa tente et il se prosterna en terre et dit, Seigneur. Vous voyez, Abraham, le mot Seigneur n'est pas au pluriel. Donc il s'adressait à un particulier qu'il avait déjà vu, qu'il connaissait. Moi, c'est mon analyse, hein, qu'il connaissait déjà. Voilà. Hein? Un des personnes, il a dit, Seigneur, il n'a pas parlé aux trois, mais on nous dit qu'il y a trois personnes. Et à la suite, comme nous le verrons après, qu'il y avait deux anges et un être que Abraham appelait Seigneur, appelait l'Éternel. Voilà, c'est ça. Je pense que Yeshua faisait allusion à ce qui s'est passé dans Genèse 18, parce que ça ne peut pas être autrement, parce que la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et ça a été répété plusieurs fois. Non seulement Yeshua lui-même l'a dit, il a dit, Jean le Baptiste, Yohanan Amatbil l'a dit, que personne n'a jamais vu Dieu, c'est le Fils unique. Et Yeshua lui-même dans Jean 6 l'a répété encore que personne, le verset 46, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas. C'est que nul n'a vu le Père. Nul n'a vu le Père. Donc Abraham non plus n'a vu le Père. Le seul qu'il a pu voir, c'est le Messie avant sa venue dans ce monde. C'est à la conclusion. C'est la conclusion logique qu'on peut tirer, parce que le thème hébraïque ici, c'est voir avec les yeux. Ce n'était pas une vision. Il a vu, il s'est prosterné. Et pour nous montrer que ce être est venu, la Bible nous dit même que ces trois ont mangé pour montrer à Abraham que ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une vision. Ils ont mangé, comme aussi nous avons vu dans Genèse, dans Exode 24, où les anciens d'Israël avec Nadab, Abihu, et Aaron ont mangé et ont vu le pied de la divinité d'Israël. Et si c'est comme ça, il ne peut s'agir que du Messie avant son engendrement dans ce monde, avant sa venue dans ce monde. C'est la conclusion logique à laquelle on peut dire. Parce que la Bible nous dit qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Yeshua, le Messie est l'intermédiaire. Il est l'image. Donc l'image que l'Éternel a présentée à Abraham était le Messie. Était Yeshua avant sa venue dans ce monde. Il ne peut pas être autrement. Mes frères et sœurs, l'image que le Père, que l'Éternel a présentée, donc je répète, à Abraham, n'est autre que le Messie, puisque la Bible nous dit que... Donc, ici, ça ne peut pas être autrement. Hein, ça ne peut pas être autrement, mes frères et sœurs. Donc, l'enregistrement s'est un peu coupé, hein, excusez-moi. Ça ne peut pas être autrement, mes frères et sœurs, parce que celui que Abraham a vu de ses yeux, et il s'adressait à une personne en particulier, il n'a pas utilisé le mot hébreu pour dire Seigneur, c'est Adon. Adon, Seigneur au singulier, Adonai, donc au pluriel. Il n'a pas dit cela, il a dit Adon, Seigneur, en s'adressant à un en particulier, à un de ces êtres, de ces trois, à un personnage en particulier qu'il a identifié, donc il le connaissait avant, il avait déjà vu. Il avait déjà vu auparavant, c'est pourquoi Yeshua a pu dire ici que Abraham l'a vu. Il a dit, il s'est réjoui. Bon, on a dit, il verrait son jour. Bon, Abraham n'a pas vu son jour. Hein? Il n'a pas vu son jour. Hein? Il a vu l'Éternel, en tout cas une image de l'Éternel qui est le Messie, puisqu'il est l'image de Dieu, l'expression exacte de sa personne, et que personne n'a jamais vu Dieu, et que personne ne peut le voir, et que l'Éternel Dieu est invisible. Le seul être qui prenait corps, même avant sa venue dans ce monde, c'est Yeshua, c'est lui seul. Amen, amen. Et il renchérit, dit, avant qu'Abraham soit, je suis. C'est ça qu'il a dit. Mais oui, il est avant tout, c'est la Bible qui le compte. Ses jours remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. La Bible nous dit qu'il est le créateur, que l'éternel Dieu a créé tout par lui, pour lui et en lui. Donc Abraham même a été créé par lui. Je suis Ehewe, en référence à ce que Elohim a dit à Moïse qu'il est « Je suis ce que je suis ». C'est dans Exode 3, je pense. « Je suis ce que je suis et je serai ce que je serai ». Ehewe, Ehewe. Donc, c'est le verbe, au fait, c'est le verbe « être ». D'accord ?« Je suis ». Ehewe. Bon, en grec, ils ont traduit par « ego emi ». Voilà. Non, c'est ça, non. « Ego emi ». Je pense que c'est ça. En tout cas, je n'ai pas vérifié, mais de tête, je le dis. Vous voyez, amen, amen, amen. Abraham a vu. Qui Abraham a vu? Abraham a vu l'image de Dieu, d'Elohim, qui est Yeshua lui-même. Abraham n'a pas vu le Père. Parce que beaucoup de gens disent que ah oui, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais non, la Bible nous dit dans ce chapitre, nous le verrons après, que c'était deux anges qui vont aller à Sodome et que Abraham va rester avec celui qu'il a identifié comme l'Éternel avec qui il parlait. L'image, il a vu de cette personne, de cet être qui a fait semblant. En tout cas, les commentateurs juifs disent qu'ils ont fait semblant de manger. Voilà, pour montrer à Abraham que ce n'était pas une vision, que c'était une réalité. Or, la réalité d'Elohim, de Dieu, c'est Yeshua. Il ne peut pas être autrement. C'est pourquoi il a pu dire ça, qu'avant Abraham soit, et que lui, il était déjà là, et je suis. Ehewe, Ehewe. Voilà, il a dit. Mes frères et sœurs, continuons. Bon, ça va être un peu long, hein? Mais nous reviendrons là-dessus, nous n'allons pas tout épuiser aujourd'hui. Donc nous allons lire dans Jean, Jean, 1 Jean, bon, nous allons déjà lui Timothée, que Dieu habite, lumière inaccessible, qu'aucun œil n'a jamais vu. Auparavant, personne ne l'a vu. 1 Jean 4, le verset 12 également, et le verset 20 également. Donc, nous lisons, hein, nous avons lu, donc je pense que je vais m'arrêter ici un peu. Attendez, je vais voir. Je vais voir 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Ha Elohim. Voilà, personne n'a jamais vu Dieu. Ha Elohim. 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Ha Elohim et haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Ha Elohim qu'il ne voit pas? Bon, lisons Jean 14. Jean 14. Voilà, Jean 14. Jean 14. Jean 14. Jean 14, 9 à 10. Hein? Jean 14, 9 à 10. Pouvons aussi lire Ésaïe 52, 13. Jean 14, 9 à 10. Jean 14, ok. Jean 14, donc 9 à 10. Jean 14, 9 à 10, on dit. Yeshua lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Filippo, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles révélées que je vous partage, je ne les partage pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est dire, c'est une vérité immuable. Comme on l'a vu tout au long de cette démonstration, on l'a vu qu'il procède du Père, le Père est en lui et il est dans le Père, ils sont un. Et ce qu'il nous demande aussi, que nous aussi nous soyons unis, comme lui et le Père, ils sont un. Ah, c'est-à-dire que Yeshua ne fait rien en dehors de la volonté de Père, du Père. Voilà, c'est le Père qui décide tout en lui. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons essayer d'arriver à cette dépendance de l'Esprit de Dieu, afin que tout ce que nous ferons, en tout cas, soit guidé par l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous serons tout le temps dans sa volonté, mes frères et sœurs. Hein, mes frères et sœurs, d'accord? Nous allons lire Ésaïe donc 53. Je lis tout le temps dans la version de Sadokan, hein. Je lis dans Sadokan. Sadokan, je lis dans Sadokan. Le verset 13, qu'on nous dit. Le verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai son lot parmi les grands avec les puissants. Il partagera le butin parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et s'est laissé confondre avec les malfaiteurs, et qui n'a pas fait porter le péché d'un grand nombre, et qui a intercédé en faveur des coupables. Hein, c'est ça, en faveur des coupables. En tout cas, je ne sais pas. Ah non, ce n'est pas ça. Pense que ce n'est pas ça. Hein. Oui, voilà. Bon, ok, c'est plus. Je ne vois pas 13. Je ne vois pas 13. Ok, d'accord. Ok, bon. Je ne vois pas 13. Excusez-moi, mais bon. Hein, je ne vois pas 13. Ésaïe 53, 13. Je ne vois pas. Hein. Mes frères et sœurs, ok, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et vous garde. Amen et Amen.